Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute! Salut Fabrice.
Salut Safia.
Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir chez toi pour cet enregistrement.
Invité.
Franchement, je me suis dit, il y a trop de... Alors, on pourrait faire un épisode de 3 heures sur tout ce que tu as fait, tu vois.
Waouh.
Mais je me suis dit que j'allais cibler quand même sur les interviews. Bon, avant ça, je vais quand même te présenter. Donc, tu as fondé et dirigé le magazine en ligne Mademoiselle pendant 15 ans.
Tout à fait.
Donc, ça s'est arrêté en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis...
Ça s'est arrêté pour moi.
Oui.
Mais le magazine continue.
Oui, c'est bien de le préciser, effectivement. Tu as arrêté ton aventure là-bas en 2020. Et depuis, tu es ce que j'appelle un serial podcaster.
Ah ouais.
Parce que, alors
ça
je
ressemble
sais pas...
un peu à Serial Killer. Alors ça...
Ouais, j'avoue. Mais non, d'un point de vue positif, je vais quand même citer tes podcasts pour que les gens aient une idée et puissent te resituer et te retrouver facilement. Et ce qui est facile, c'est que du coup, tes noms de podcasts se ressemblent, donc on ne peut pas les oublier.
J'essaie de marketer le truc, faire les choses bien.
Exactement. Donc on a Histoire de succès. Alors on a commencé par Histoire de Daron, si je ne me trompe pas.
Oui.
Histoire de Daron, Histoire de succès, Histoire d'argent, Histoire de mec, Histoire de Daronne.
Ouais.
Et après, il y a aussi 3 podcasts qui sont sur des thématiques ou qui sont terminés, d'ailleurs, à savoir un sur le divorce, un sur... Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises.
C'est Deuxième vie après le divorce. Après, il y a Trouver sa raison d'être.
Oui, que tu as fait récemment, qui est une série sur 30 jours.
Ouais.
Ouais.
Okay, qui est tiré d'un bouquin avec William Régeau. Le film club aussi qu'on fait tous les 15 jours avec Mimi, où on revoit un vieux film. On invite les gens qui nous écoutent à le revoir aussi avant de nous écouter et on commente le vieux film à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
C'est génial comme format, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en francophone. Tu vois, ce genre de réac un peu en format podcast, c'est hyper original.
Bah écoute, merci. C'est une idée de Mimi à la base. Donc,
okay.
Voilà.
Bravo Mimi.
Bravo Mimi.
Mais quel est ton rapport du coup au podcast? Quand est-ce que tu as découvert ça? Et parce qu'on sent que c'est une passion.
Alors c'est le podcast, c'est moins une passion le podcast que vraiment l'interview et surtout de faire des interviews. Parce que c'est vraiment ça qui m'anime, moi, c'est d'être à la place où je suis et d'avoir quelqu'un en face de moi là où t'es et en fait de faire parler les gens. C'est vraiment le truc sur lequel je me trouve le plus aligné. Mais en gros, moi, des interviews, j'ai commencé à en faire chez Mademoiselle il y a fort longtemps, assez rapidement, en fait, 2005-2006. Après, en vidéo, sur MySpace à l'époque, donc autant te dire que... Ça, à l'époque, MySpace, ils avaient foutu un player vidéo. Je m'étais dit, tu dis, ce serait une super idée de le poster là-dessus. Après, sur Dailymotion et après sur YouTube, où j'ai commencé à faire des interviews aussi d'artistes qu'on pouvait avoir dans le magazine d'une manière générale. Et en gros, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'interview longue. Hein. Ça, il faut vraiment replacer. Mais mes premières interviews un peu longues, elles datent de 2010-2011, où je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie de faire parler les gens de plus en plus longtemps. D'abord, on faisait 10 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes. Après, je finissais par faire des interviews d'une heure, une heure et demie en vidéo sur YouTube. Et ça, à l'époque, ça n'existait pas. Et en fait, on avait aussi... Alors moi, le podcast, c'est toujours un truc que j'ai regardé du coin de l'œil, mais comme c'était difficile de le monétiser à l'époque, et surtout, j'y voyais pas vraiment d'utilité, jusqu'au jour où on a commencé à lancer des lives sur YouTube. On avait fait des lives sur YouTube avant que Twitch s'ouvre au reste du truc, parce qu'avant Twitch, c'était uniquement pour le jeu vidéo. D'ailleurs, on avait tenté avec la chaîne Mademoiselle d'arnaquer un peu et on s'était fait bannir direct.
Ah oui, ils sont radicaux.
C'était vénère. Ils se sont vraiment ouverts depuis le rachat Amazon, de par Amazon. Mais... Donc, sur la chaîne YouTube, on avait cette émission avec Sophie-Marie Laroui et Navi qui s'appelait L'Émifion, qui était une émission de sexe, où on parlait de sexe, en fait, okay. Où elle parlait de sexe. Et en fait, ce format-là, je me suis dit, OK, bah, en fait, c'est en vidéo, certes, mais ça pourrait être. C'est de la radio en fait, donc on l'a pris, on a commencé à le mettre dans un podcast, okay. Et c'était en 2014, hein.
Oui, donc
voilà. Et en 2016, je me suis dit, OK, il y a vraiment un vrai truc à jouer, mais fallait convertir entre guillemets énormément de lectrices. On a converti beaucoup de lectrices à venir écouter des podcasts et à s'y mettre. Et en 2016, ouais, il y a Louise Petrouchka, que peut-être tu connais, qui aujourd'hui a quitté Mademoiselle et qui fait plein de choses sur un podcast, qui est arrivé pour produire des formats dédiés, quoi.
Ok, donc voilà. Oui, ça remonte un peu quand même, mais du coup, je me demande finalement quel genre d'enfant t'étais. Est-ce que t'aimais déjà poser des questions aux gens? Est-ce que t'aimais bien, quand t'étais petit, faire parler les autres?
Oh là là, alors ouais, en fait, c'est pas que j'aimais pas faire parler les autres, c'est que je crois que j'ai des souvenirs de grande frustration parce que je posais plein de questions à mes parents et je crois que vraiment mes questions les emmerdaient très fort. Donc, j'ai une vraie frustration de... Ok, je sens que ma question les fait chier ou ils savent pas répondre, etc. Et je partais souvent avec ça et ça me frustrait vachement. Et je crois que peut-être que c'est ça qui m'a incité aujourd'hui à faire en sorte de faire parler les gens. C'est peut-être l'origin story, tu vois, de cette manie que j'ai. J'adore faire parler les gens, mais en plus, c'est même pas un truc que je fais uniquement en interview. Ouais. Hein. C'est juste quelque chose que je fais naturellement et souvent. Un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est que comme j'écoute bien, les gens parfois me confient des trucs que j'ai pas du tout envie de savoir. Tu vois, où vraiment ils me déposent des choses où je sens qu'ils viennent, et moi je leur ai pas posé la question, juste ils viennent me raconter des trucs, ils s'ouvrent à moi, mais parce que aussi si tu réfléchis un peu, à part dans un cadre thérapeutique chez la psy et tout, c'est super rare de te faire... où tu as quelqu'un qui t'écoute, ouais. Dans notre société actuelle. Quoi. C'est pas un truc qui existe beaucoup. Et en fait, je me rends compte que les gens qui venaient à mon micro, ils viennent souvent pour venir se raconter et qu'il y a quelqu'un en face d'eux qui les écoute. Quoi.
C'est vrai. C'est un peu comme une thérapie. En général, je trouve que tu vois, c'est un format où tu connais pas forcément la personne avant l'interview. Puis en fait, on passe un moment pendant 30 minutes, une heure, et à la fin, on devient pas des potes, mais tu vois, il y a un truc qui s'est créé un peu spécial.
Mais souvent, tu sais, je prends des petits polaroïdes en fait à la fin de mes interviews, oui. Et les gens qui ont l'habitude d'aller chez le psy ou d'aller chez des thérapeutes, souvent, ils m'écrivent, je leur demande d'écrire un petit mot en dessous, ils me disent merci pour la séance. Vraiment. Okay. Bon, je me considère pas du tout comme psy et tout, tu vois, mais.
Oui.
Et surtout, je veux pas. Jouer ce rôle-là, pour moi, on va en reparler un peu après, mais pour moi, hyper important de savoir quelle est ta place,
ouais.
En tant qu'intervieweur. Et moi, je ne veux surtout pas venir déborder sur une place de psy, ce n'est pas mon rôle. Et moi, je veux juste éventuellement t'accoucher, quoi, tu vois, mais venir analyser ou venir... Non, ce n'est pas du tout ma place. Quoi.
Ouais, je comprends. Alors, pour démarrer cette interview, je me suis dit que pour que les gens puissent se reconnaître et s'identifier un peu dans toi, est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire d'interview ratée?
Ah bah c'est l'histoire que je raconte, que j'ai raconté souvent et qui est pour moi vraiment mon plus gros échec. Mais même tu vois encore personnel aujourd'hui, pour moi c'est encore une blessure alors que c'était il y a peut-être 7-8 ans quoi, tu vois. Où j'en ai même fait un article sur Mademoiselle à l'époque parce que je trouvais ça hyper intéressant de venir raconter les leçons que j'en avais tirées et comment j'en étais arrivé à me planter comme ça. Et en gros... On est au Festival d'Angoulême et l'idée, c'était de... Pour moi, je voulais venir faire un reportage, mais tu vois, caméra au point, un peu micro-trottoir, faire parler les gens à la volée, etc. Donc, j'avais juste une caméra de point, pas de trépied, rien du tout. Je te raconte ça parce que tu vas voir, un peu après, c'est important. Et en gros, je croise l'attachée de presse de... Je vais dire une connerie, donc je ne vais pas le dire, mais en tout cas de la maison d'édition qui édite les bouquins, les BD d'Alexandre Astier, de Kaamelott. Okay. Et elle me dit, en passant, est-ce que ça t'intéresserait il est 11h, à 14h, il y a moyen d'interviewer Astier. Franchement, je ne suis pas fan, moi. Il n'y a pas beaucoup de gens où je me suis dit, putain, je suis trop heureux de les rencontrer, etc. Et je ne suis pas trop fanboy, tu vois, d'une manière générale. Mais dans la liste des gens que j'aimerais bien interviewer, il y a Astier qui est plutôt haut, tu vois. Donc, je suis trop content. Je prépare une interview et tout. Tu vois, il me reste 2 heures. C'est assez rare que je prépare des interviews, mais là, vraiment, je prépare l'interview. Je me pointe sur le lieu. Et en fait, l'attaché de presse me dit, il y a Astier qui est là. Il y a un autre gars que je ne connais pas. Et l'attaché de presse me dit, écoute, il a un direct juste après. Donc, on va aller à l'endroit où se passe le direct, si tu veux bien. Comme ça, il pourra enchaîner directement. Oh, pas de problème, on avait un peu le temps et tout. Et en fait, je comprends, sans qu'elle me le dise vraiment, qu'en fait, je vais faire l'interview d'Astier et de ce mec qui est le dessinateur de sa BD, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas son prénom. Je ne sais pas. Si tu veux, j'ai quelques questions sur la BD, mais plutôt sur l'adaptation, etc. Pas sur qui est ce gars, je ne sais pas. Et en fait, à l'époque, la 3G était ultra saturée quand c'était le Festival d'Angoulême parce qu'il n'y avait pas assez d'antennes, machin, dans le coin. Donc, j'essaie désespérément, tu vois, je vais sur Wikipédia, mais en fait, la page ne charge jamais. Et en fait, je démarre l'interview sans connaître le prénom du gars qui est assis en face de moi et à côté d'Astier, en me mettant dans une position pour pouvoir réussir à caler le mieux possible ma caméra. Mais tu vois, donc je la pose contre mon genou, je pose mon coude contre mon genou pour faire en sorte de stabiliser un peu. C'est un truc que je savais un peu faire, mais je suis stressé de ouf, alors que en vrai, ça allait, j'étais pas trop... Enfin, si j'avais juste Astier, je me serais plutôt pas trop mal démerdé, quoi. Mais là, je me dis, ok, tu démarres l'interview, tu sais même pas comment s'appelle le gars, c'est horrible. Je sens que je tremble de ouf. Et donc, je me rends compte que je suis en train de trembler, donc ça me fait encore plus péter un câble. Et je crois qu'Astier s'en rend compte. Et surtout, Astier, il a ce truc où... Je crois qu'il est un peu saoulé que je lui pose que des questions à lui. Mais en fait, je n'arrive pas à... Je n'arrive même pas à l'interpeller, le gars. Et en fait, il s'appelle Steven Dupré, maintenant je le sais. Okay. Mais tu vois, après coup, je me suis dit, mais mec, tu t'es foutu dans la panade tout seul. T'aurais juste pu demander à l'attaché de presse, parce qu'en fait, elle est là pour t'aider. Et c'était un peu le conseil que je donnais. C'était en fait, si vous vous retrouvez dans la merde... En fait, elle était quelque part aussi responsable que moi du fait que l'interview se passe bien. Et en fait, elle ne m'avait pas briefé parce qu'elle m'avait juste dit « Est-ce que ça t'intéresse d'avoir Astier ?» Elle ne m'avait pas dit « Et il y aura aussi son dessinateur avec. » Donc, j'aurais dû aller la voir et lui dire « Alors, je suis désolé, mais en fait, je suis un peu pris de court. Est-ce que tu peux me briefer très rapidement ?» On avait 10 minutes de marche en plus, donc elle avait très largement le temps de le faire. Mais non, pour moi, c'était compliqué de demander de l'aide à l'époque. C'était vraiment « Ok, je suis en faute, il faut que je gère le truc. » Ce qui était une connerie, voilà, finalement. Et finalement, l'interview, je l'ai re-regardée là, il n'y a pas très longtemps, parce que on va en parler, mais j'en parle dans la formation que j'ai fait. Ouais. Je parle de cette anecdote. Et en vrai,
c'est pas si terrible.
Si tu ne sais pas, je me démerde pas trop mal. C'est juste Astier, à un moment donné, il dit, eh bien, en fait, cette question, c'est une question qu'on pourrait également poser à Steven. Et là, je sais qu'en fait, il s'appelle Steven. C'est horrible.
Ah ouais. Mais tu sais, c'est toujours pire dans notre tête que le moment en vrai. Mais du coup, c'est cool que tu aies pu la revoir, mine de rien, et te rendre compte aussi.
Oui, c'est très important de les garder. Mais tu vois, je sais par exemple que j'avais demandé, je sais qu'Astier, il est plusieurs fois daron et tout, je lui avais demandé de faire daron. Mais tu sais, j'ai toujours un peu ce truc de, si à l'occasion, j'ai l'occasion de pouvoir l'avoir à mon micro et d'exorciser un peu ce moment, putain, je vais foncer, quoi.
Et justement, est-ce qu'il y a des personnes que tu rêves, entre guillemets, d'avoir sur l'un de tes podcasts ou dont tu admires le travail et qui sont sur ta liste, quoi, depuis un bout de temps?
Écoute, non, mais c'est juste, tu vois, par exemple, j'aimerais bien avoir Léna, situation. Ouais. J'ai vu son papa. Mmh. Et en fait, Léna, c'est juste que... En fait, je l'ai ratée à l'époque de Mademoiselle quand elle était toute petite, entre guillemets. Elle n'était pas encore l'énorme star. Et en fait, je la vois aujourd'hui en plus sortir des podcasts, faire des interviews, etc. C'est vachement chouette ce qu'elle fait. Mais j'aimerais bien avoir une heure avec elle où on parle de... Elle a plein de doses, tu vois, elle a plein de sujets.
Ouais.
Mais bon, ouais, écoute, j'ai une liste, mais je la garde secrète.
Ok, Pas de teasing alors.
Pas de teasing.
Et justement, ça me permet de poursuivre. Comment est-ce que tu choisis les personnes que tu vas interviewer dans tes différents podcasts? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu cherches des profils en particulier? Tu vois, comment tu vois les choses?
Écoute, ça m'arrive de chercher des profils. Et dans ce cas-là, souvent, je poste des appels à témoignages, tu vois, sur mon Insta notamment. Mais globalement, ce que je fais, c'est que souvent, je laisse les gens venir à moi. Et en gros, comme j'ai la sensation que j'alimente quelque part la réflexion de mes auditeurs et de mes auditrices au fil de l'eau où je fais des interviews, je sais que ça fait cheminer les gens aussi en face. Et donc souvent, il y a un cercle un peu vertueux qui se passe, c'est-à-dire que les gens qui viennent, ils sont un peu plus aware, conscients de qui ils sont. Enfin, tu vois, disons que les podcasts les ont aidés peut-être à réfléchir et à cheminer. Donc quand ils arrivent face à moi, c'est cool aussi.
Ouais.
Mais globalement, j'essaie de varier le plus possible. C'est vraiment ça mon truc avec les castings, c'est de faire en sorte d'aller chercher le plus large possible et de varier en fait.
Ouais.
Mais ouais, globalement, ils viennent plutôt. Enfin, j'ai cette chance en fait d'avoir aujourd'hui une audience suffisante pour que les gens viennent à moi. Et en fait, c'est terrible parce que par exemple, dans Histoire d'argent, le podcast que je fais sur l'argent, là j'ai trop de demandes. Il y a plein de gens qui veulent venir raconter leur histoire d'argent. Et en fait, je pourrais largement faire 2-3 épisodes par semaine que j'en aurais encore très très largement, parce que je sais en plus qu'il y aurait d'autant plus de gens qui viendraient m'écrire après, quoi.
Et c'est pas un truc que tu voudrais augmenter ce rythme de diffusion sur les podcasts où tu peux avoir plus de contenu comme ça?
Écoute, ça fait partie des questions que je me pose actuellement.
Tu travailles, t'as une équipe? Parce qu'il me semble avoir vu que tu avais eu une alternante à un moment donné,
ouais.
Et que tu as une personne qui monte la plupart de tes épisodes.
Ouais.
C'est toujours le cas?
Ouais, j'ai une alternante aujourd'hui. Donc l'alternance avec Jenna s'est terminée, c'était super. Et en fait, Jenna est partie vivre sa vie, son boulot et tout. Mais en fait, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité financière, tu vois, de pouvoir l'embaucher, de pouvoir lui donner un vrai salaire, entre guillemets. Et en plus, tu sais, il y a des aides avec les alternances.
Oui.
Là, donc c'est du pain béni. Pour, tu vois, ma pomme qui est en train de monter un nouveau projet et qui a besoin. En plus, je trouve que c'est cool parce que ça permet aussi de former. Enfin, moi, j'adore ça d'une manière générale. Mais, et là c'est avec, on fait ça, on travaille avec Samantha qui est, elle, en alternance pendant un an et demi. Et effectivement, il y a Antoine aussi qui monte à côté. Et là, je suis en train de former Samantha aussi à monter. Donc peut-être pour permettre de pouvoir augmenter un peu la cadence, on verra quoi. Ça fait partie des questions que je me pose.
Ok, mais du coup, elle fait quoi dans
Samantha, elle m'aide vraiment au quotidien sur à la fois toute la pré-prod, de pouvoir caler les rendez-vous, etc. Même si plus ça va, plus je trouve des systèmes pour automatiser un maximum, mais aussi en post-prod en fait, c'est-à-dire qu'elle prépare les podcasts, enfin, elle fait tous les trucs que j'ai plus envie de faire en fait et que j'ai trop fait, et elle me file un coup de main aussi c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un en ping-pong, tu vois, qui plutôt que d'être tout seul face à mon ordi et face à mes podcasts, quand je me pose des questions, je lui envoie et je lui dis tiens, j'aimerais bien que t'écoutes et que tu me dises un peu ce que t'en penses et tout. Bon, bref, c'est toujours cool de travailler en équipe, quoi.
Ouais, clairement, c'est bien d'avoir un œil extérieur, ouais. Pour le coup. Est-ce que tu prépares tes interviews? J'ai cru voir que non, mais je me dis, alors dans mon imaginaire, que quand on reçoit une personne, on a besoin d'un minimum de savoir qui elle est, ce qu'elle fait, pour savoir rebondir si tu veux et continuer à poser des questions pertinentes. Du coup, je me demandais quel était ton process de préparation, si t'en avais un.
Ouais, je fais en sorte, ça dépend vraiment des invités, mais je fais en sorte de préparer d'une manière générale le moins possible et de rester frais. Et même mes invités, quand ils m'envoient, qui sont pas des personnages publics, si tu veux, qui m'envoient des mails, parfois ils me racontent leur vie, ils me racontent des tartines. Et en fait, je fais vraiment en sorte de lire en diagonale parce que je veux pas savoir. Je préfère apprendre en direct.
Mais du coup, tu prépares zéro question? T'arrives et tu t'assois et tu discutes.
Ouais.
Pour moi, c'est un talent. Hein. Je suis incapable, je
Mais
pense,
ça fait 15 ans que je fais ça, tu vois. Donc, c'est sûr que quand je démarrais, j'avais besoin de ma feuille. En fait, j'étais toujours bloqué sur ma feuille. Et ça fait partie des trucs que j'incite vraiment à... Que j'incite tous les gens, et notamment dans ma formation, tu vois, que j'ai faite. J'invite tous les gens à laisser tomber leur feuille à un moment donné. Et parce que, en fait, la feuille, elle t'empêche de rester dans le moment.
Ouais, ça je le remarque quand j'interviewe des gens qui me demandent en amont une trame, je leur envoie et en fait je me rends compte qu'ils sont pendant toute l'interview fixés sur la trame, ils ont préparé leurs réponses et tu vois, on perd en spontanéité,
oui.
Quoi.
Mais oui.
Effectivement. Mais je sais pas si j'aurais les cojones de débarquer comme ça. Bon, alors, à moins que je connaisse bien la personne, mais de venir, tu vois, au talent.
Ça, c'est ta peur à gérer après.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Selon toi, quelles sont les qualités, on va dire, d'un bon intervieweur? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu fais ça depuis des années, donc tu as quand même un œil voilà, un peu plus aguerri, expérimenté là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'interviews sur Internet, et surtout dans les podcasts, mine de rien. La plupart sont des podcasts d'interviews. Toutes ne sont pas très bonnes, on va pas se mentir.
Alors, ouais, c'est-à-dire que ma motivation initiale pour lancer cette formation, c'était d'aider les gens à mieux interviewer, parce que très souvent, j'écoute des podcasts en France, souvent, où il n'y a pas beaucoup de bons intervieweurs. Et je suis un peu frustré en tant qu'auditeur parce que je sens qu'il y a des questions qui passent à côté, ou alors la personne intervieweuse n'est pas forcément très à l'aise. Mais ce n'est pas qu'ils sont nuls en plus, c'est juste qu'ils débutent.
Ouais.
Et en fait, dans ma formation, je mets vraiment, en gros, la formation que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté, où je raconte tous les trucs que j'ai appris en 15 ans. Qui font qu'aujourd'hui, bah, je suis à l'aise, comme tu dis, en fait, moi, j'aurais peur et tout. Bah, en fait, j'explique pourquoi et comment j'ai fait, moi, pour dépasser cette peur-là. Et ça fait partie des trucs que j'ai mis 15 ans à apprendre. Donc, je sais que ce n'est pas facile à faire, mais en fait, j'aurais préféré, moi, le savoir que c'était possible de le faire pour après me mettre sur le chemin. Là, en fait, je l'ai appris au fil de l'eau, quoi, tu vois, vraiment. Ouais. Donc, j'ai la sensation que quand tu as fini cette formation, au moins, tu as, bah, en fait, voilà tout ce que je sais moi sur le truc, et vraiment je raconte tout ce que je sais, en tout cas ce que je crois savoir, j'ai tout mis à plat, et en fait au moins ça te permet d'avoir les bases théoriques.
Oui.
Après il faut passer à la pratique, hein. C'est juste, effectivement il faut le faire, il faut te lancer dans le bain, il faut avoir peur, etc. Donc ça je peux pas t'aider à ne pas avoir peur, quoique je donne un petit tips dedans, mais et ouais, pour moi c'est vraiment... Ça a été vraiment ma motivation première, c'est que si tu fais un podcast et que tu dis tiens j'aimerais bien faire un podcast, et en gros je pars du principe que je vais me poser le cul dans un canapé et je vais ouvrir le micro et en fait on va discuter, bah ça fera pas forcément une bonne interview, hein. Mm-hmm. Parce que en fait c'est, en tout cas moi je pense que c'est vraiment un art, et je dis pas ça parce que je le pratique depuis des années et que je trouve que je le pratique bien.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est que vraiment, c'est compliqué de bien interviewer, de bien écouter, et d'être à l'écoute des gens. Et pour moi, ça fait partie, c'est la première qualité en fait. C'est juste, essaie de fous-toi dans le moment.
Ouais.
Pour moi, l'interview, c'est une rencontre avant tout. Et en fait, pour moi, les meilleures interviews que j'ai faites, et en vrai, il y en a beaucoup, hein, où j'arrive à créer ce truc-là, ce moment-là de rencontre, où je suis tellement détendu et aligné et à l'aise qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui se met exactement dans le même état d'esprit, même si c'est la première fois qu'elle parle dans un micro. Bah, je trouve ça... En fait, je sais que ça vient de moi aussi, ça vient de ma propre position. Je suis serein, je suis posé, et je sais que pour avoir déjà fait des interviews face à des intervieweurs ou des intervieweuses débutantes, souvent, si tu es stressé en tant qu'intervieweur ou intervieweuse, tu vas stresser la personne aussi, parce que tu es toi-même pas à l'aise dans ton truc, quoi. Tu vois, là, tu es posé, là, tu es dans mon canapé, t'es tranquille, là, t'es ultra chill. Bah, ça me met moi aussi vachement dans une position de détente, en fait. Si ouais. T'étais là, ok, alors je sais plus c'est quoi ma question d'après et tout, ça serait horrible.
Effectivement. Effectivement. Mais du coup, dans ta formation, tu l'as lancé quand cette formation ?
Il y a 2 mois.
Ok, moi je pensais que c'était un peu plus vieux que ça, mais effectivement, c'est assez récent. Mmh. Bah, déjà, première question, c'est forcément une question d'entrepreneur. Pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour te décider à former les gens là-dessus ?
Parce qu'en fait, j'ai formé plein de gens chez Mademoiselle pendant des années. J'ai formé toutes les équipes qui avaient envie de faire le truc, de faire des interviews. Si bien qu'à la fin, en fait, je n'avais plus aucune interview cool. Toutes les interviews cool, c'était les membres de l'équipe qui le faisaient. Et j'étais là, bah, c'est vraiment mon plaisir. Et en fait, je trouvais ça bien aussi qu'elle le fasse. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Histoire de Succès. C'est que avant, comme je te disais, toutes les interviews d'artistes et tout, c'était moi qui les faisais et j'adorais ça. Et là, en fait, bah, c'était elle qui le faisait. Je dis elle parce qu'il y avait plutôt des femmes. Donc, tous les gens qui avaient envie, je les ai formés. Et en fait, en plus, je prenais leurs épisodes, je les écoutais, je les débriefais. Et en fait, je faisais en sorte de les améliorer. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, c'était juste... c'est un savoir-faire que j'ai transmis pendant des années et qui n'était pas forcément adaptable en formation en ligne. Et c'est Charlie, d'ailleurs, je ne sais pas s'il écoutera, mais c'est Charlie qui a un compte Insta qui s'appelle Charlie EVT, qui a un compte de fitness, sport et tout, qui est trop cool, ce mec. On a fait un épisode d'Histoire de Succès ensemble, il est génial. Et c'est lui qui m'a dit, non mais en fait, si tu fais une formation, moi je suis le premier à l'acheter. Je me suis dit, ok, bon, bah, je vais le faire juste pour lui, en fait. Et c'est cool.
Et effectivement, je trouve que c'est déjà c'est un bon moyen de diversifier ce que tu fais. Parce que, bon, après, c'est vrai que t'es bien occupé, mais bon, c'est bien aussi de diversifier les sources de revenus. Mais effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de ton expertise. Parce que ce qui est cool dans la formation, c'est que tu prends vraiment chaque étape du processus, c'est-à-dire le avant, le toi, comment t'as envie de diriger le truc, la préparation, à la fois pour toi et pour l'invité, ouais. Le moment de l'interview et la suite.
Oui.
Donc, en fait, t'accompagnes vraiment dans tous ces processus-là. Ce qui est cool aussi, d'après ce que j'ai vu, c'est que ça n'a pas l'air très long.
Non.
Et ça, c'est bien. Ouais. C'est un très bon argument, je trouve. Et t'as même mis à disposition une communauté pour pouvoir échanger, bah oui, et poser ces questions. Ouais. Ça, c'est très cool.
Pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus. Mais ouais, en fait, j'espère vraiment que ça va grandir. Et en fait, pour moi... En fait, l'idée, c'est encore une fois de ne pas venir dire que c'est la recette ultime. C'est juste ma recette à moi. Et je le présente vraiment comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment ma pomme qui va... Je vais t'expliquer comment je fais moi. Et parce qu'en fait, je considère que je suis un bon intervieweur, que je fais ça depuis tellement longtemps que j'ai vraiment développé une vraie expertise. Et que j'imagine que si tu as quelqu'un d'autre qui vient raconter sa façon à elle d'interviewer, bah peut-être en fait ça sera totalement différent et c'est ok. Moi c'est juste, moi je sais que, et en fait si t'aimes bien les interviews et les podcasts que je fais, normalement ça devrait te plaire.
Ouais, c'est un très bon argument effectivement, parce que c'est clair qu'il y a autant de façons de faire des interviews qu'il y a des podcasteurs. Enfin tu vois, moi j'aime bien ta méthode parce qu'elle est beaucoup plus actionnable et réaliste que d'autres podcasteurs. Je pense notamment à Tim Ferriss qui avait partagé sa façon de préparer les interviews et pour qui il y a des jours et des jours de recherche.
Ouais.
Qui a envie de faire ça? Personne, tu vois.
Ben enfin, c'est une autre façon de faire, c'est-à-dire que lui il vient... Enfin, pour moi, Tim Ferriss, c'est hyper intéressant ce qu'il fait, mais c'est juste, lui il digue la façon dont les gens... font les trucs. Et puis surtout, oui, aujourd'hui, il a une équipe de marteau. Si tu, oui, veux, il a plein de gens qui peuvent faire les recherches à sa place.
C'est vrai.
Mais c'est pas, pour moi, c'est pas le même exercice. C'est-à-dire, il m'arrive, tu vois, d'avoir des invités où que je connais peut-être un peu mieux ou dont je suis le travail depuis longtemps. Et en fait, je vais avoir des questions beaucoup plus précises sur leur méthode de travail, etc. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, ça m'intéresse. Et que moi, quand j'ai des gens pour la première fois devant mon micro, j'ai plutôt envie de savoir leur histoire en particulier, quoi. Donc non, pour moi, les deux méthodes sont valables. C'est juste, il ne leur sort pas du tout la même interview. Déjà, Tim Ferriss, souvent, ses interviews, elles durent 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Pour moi, c'est un poil long. Et surtout, tu vois, tu sens qu'il a digué les sujets et il vient poser des questions hyper précises. Bon, ok, c'est cool.
Mmh. C'est vrai que c'est pas la même, c'est pas le même environnement, c'est pas le même contexte. Toi, on est vraiment sur de la conversation, mine de rien, et davantage sur l'expérience et l'humain, etc. Et pas tant sur ses compétences et son expertise, mais vraiment sur le moment et son histoire, quoi.
Exactement. Et sauf si, tu vois, par exemple, je reçois la personne pour la deuxième ou la troisième fois, là, ok, on peut rentrer un peu plus dans le sujet. J'ai reçu, tu vois, Jérôme Niel pour la deuxième fois dans Histoire de Succès. On a parlé de spécifiquement son spectacle, et de comment il en est venu à créer son spectacle, et de rentrer un petit peu plus dans le process de comment il a fait en venant de YouTube ou d'Insta pour se lancer sur la scène, et qu'est-ce que ça lui a amené, etc. Je trouvais ça cool de pouvoir creuser un peu plus spécifiquement le sujet, quoi.
Effectivement, quand la personne est déjà venue, oui. Tu reçois souvent des personnes plusieurs fois ?
Écoute, ça m'arrive. Quand j'ai envie, là par exemple, il y a Fabien Olicard qui sort un nouveau bouquin. On a déjà fait 2 interviews avec lui. En fait, j'ai envie d'en faire une troisième parce que de toute façon, le mec est passionnant. Et on va parler plus spécifiquement de ce qu'il raconte dans son livre parce que je trouve ça génial. Et on rentre dans le vif du sujet parce que j'ai plein de questions aussi à lui poser plus spécifique, quoi.
Ouais. Comment est-ce que tu... Quelle est ta méthode, on va dire, pour atteindre les gens que tu as envie d'interviewer? Parce que c'est vrai que l'un des freins de pas mal de podcasteurs, en tout cas moi, dans ma formation où je forme des entrepreneurs à lancer leur podcast, souvent ils n'osent pas contacter des gens parce qu'ils se disent j'ai pas les bons termes, je suis pas assez gros ou je suis pas assez ceci ou cela. Toi, comment est-ce que tu procèdes pour faire en sorte que les gens te disent oui?
Bah déjà de pas avoir peur, mm-hmm. parce que en fait c'est que ça. Enfin, c'est souvent que ça. C'est-à-dire que tu peux être sûr que la personne ne va pas te répondre si tu ne la contactes pas. Donc, tu peux être sûr que ça va marcher. C'est-à-dire que tu vas partir du principe que tu avais raison et que, en fait, tu es trop petit pour contacter cette personne. En fait, après, moi, j'ai un mail tout fait et j'ai une présentation, en fait, de mon podcast où je viens raconter à la fois, qui je suis, mes valeurs. Tu vois, c'est un truc que je file dans la formation parce qu'en fait, pour moi, c'est cool de voir un petit peu comment je fais, les valeurs, ce que je veux faire passer comme valeur dans mes interviews. Je file des chiffres aussi et des invités qui sont déjà passés et que je trouve pertinents et du truc plus technique, quoi, tu vois, du genre où est-ce qu'on peut enregistrer, etc. etc. Et après, pour moi, c'est vraiment, je passe mon temps à chercher qui connaît qui, que je voudrais inviter, tu vois. Et très régulièrement, je demande aux gens, si je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, est-ce que tu peux éventuellement me mettre en contact avec quelqu'un ou me mettre en contact avec quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, quoi. Parce qu'en fait, ça marche que comme ça. Et de leur envoyer un épisode que tu trouves...
dont t'es fier.
Voilà.
Ouais.
Que tu trouves un peu symbolique ou qui est par exemple, je sais pas, un collègue ou quelqu'un que cette personne connaît en disant, tiens, en fait, j'ai déjà invité cette personne que j'imagine tu connais. Voilà ce que ça donne pour que tu puisses avoir un petit peu l'ambiance de ce que je fais, quoi.
Ok, bon, c'est intéressant. Du coup, présenter ton podcast et ce que tu as envie de transmettre et ne pas hésiter à activer son réseau.
Bah oui, ouais, ça paraît banal, hein, mais...
Bien sûr, mais il y a plein qui n'osent pas le faire.
Après, encore une fois, c'est votre peur.
Oui.
Gérer votre merde, gérer votre peur. Non, mais c'est vrai, c'est important. En fait, c'est marrant parce que j'ai une des personnes qui a acheté la formation qui est venue me voir en me disant « Alors, je suis un peu déçu par ta formation parce que tu donnes pas tous les trucs que tu as fait quand tu étais petit et tout. » Je lui dis « Mais si, c'est exactement ce que je faisais. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis plus gros, mais en fait, à l'époque, je faisais ça. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai un peu affiné, tu vois, donc de plus en plus. Donc, je finis par vous filer le produit fini, mais en fait, à la base, je faisais ça. » Et en fait, je lui dis « Mais qu'est-ce qui fait que ça va pas ?» Tu vois, elle est venue me raconter sur Discord et tout. Et en fait, elle s'est dit « Ok, donc en fait, en vrai, le problème, c'est pas la formation, c'est plutôt moi qui ai peur. » Oui.
C'est souvent comme
ça. À un moment donné, il faut y aller. Quoi, tu vois, et ça, pour le coup, moi, t'as beau avoir suivi ma formation, si tu veux pas te sortir les doigts et te dire « Ok, bon, bah maintenant, je vais me prendre des râteaux. » Mais oui, c'est jamais cool de prendre des râteaux. Moi aussi, je me prends des râteaux.
Comment tu sors ton ego de l'équation? Parce que des fois, il a dit oui à tel podcasteur et moi, il m'a dit non, tu vois.
Ah bah ça, si c'est, bah après, si ta vie, c'est de vouloir te comparer aux autres, c'est sûr que c'est chiant et que en fait, ça finit par piquer la gueule. Si tu te rends compte que en fait, c'est ton ego justement qui est en train de te driver à ce moment-là et que c'est pas une force supérieure qui est en fait, ok, c'est peut-être pas le moment, peut-être que je l'aurai plus tard cet invité, peut-être que bah, j'en suis là actuellement et que lui, il l'a eu et que peut-être il faut que je passe par d'autres invités avant de pouvoir l'avoir. Bah oui, après si tu te arrêtez de vous comparer, en fait. Je sais pas à quoi ça sert. Tu fais ça parfois, tu te compares aux autres?
Ça m'arrive. J'essaye de pas le faire, mais des fois c'est plus fort que moi. Je pense que c'est humain. T'arrives à ne pas te comparer toi aujourd'hui? Tu vas nous donner une once d'espoir si tu nous dis oui.
Bah oui en fait, parce que en fait ça m'empêche pas d'être déçu quand il y a quelqu'un que je voudrais avoir qui vient pas. Mais en fait si la personne se retrouve ailleurs, je me dis juste bon bah ok, ça veut dire que peut-être j'ai pas était assez bon moi, enfin tu vois, ça me concerne avant tout moi plutôt que l'autre personne, et je pars pas du principe que de ce fait là ça veut dire que l'autre est mieux, ou ça veut dire que bah non, ça veut dire que moi j'en suis là où je suis aujourd'hui, et en fait peut-être que j'ai du travail à faire pour pouvoir finir par arriver à avoir cette personne à mon micro.
C'est ce que je me dis aussi, mais après avoir eu le seum.
Ok.
Mais j'y arrive, tu vois. Ouais. Mais effectivement, j'ai un petit peu de...
Bah, si t'arrives à te... En fait, avoir le seum, c'est pas très grave, parce que ça dépend de ce que ça fait en toi. Si ça te drive un peu, si ça te met du fuel dans la machine, si tu veux, c'est plutôt cool. Si c'est juste du seum qui te paralyse, c'est pas très intéressant, quoi.
Ouais, c'est pas terrible, effectivement. Est-ce que t'as déjà eu des interviews où tu t'es dit « Elle est trop nulle, pour pas que je la diffuse » ou comment tu gères, mine de rien, quand t'es en interview et que la personne en face de toi, elle est pas, elle survole, elle est très superficielle dans ses réponses.
Bah j'arrête.
Ah tu arrêtes ?
Bah je dis en fait, je suis désolé, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'imaginais et j'en parle dans la j'en parle dans la formation justement parce qu'il y a un moment particulier où il y a la personne qui passe son temps à s'autociter.
Ouais.
Et ça je déteste ça déjà les gens qui font ça d'une manière générale. Après je comprends pourquoi elle le fait. Et en fait, j'ai arrêté, j'ai dit, alors je suis désolé, mais en fait, tu passes ton temps à t'autociter. Ça veut dire que je suis en train de te poser les mêmes questions que les autres sont en train de t'ont déjà posé, etc. Donc ça veut dire que je suis pas très bon.
Mmh.
Comment je peux faire pour qu'on reprenne? Parce qu'en fait, tu dis, moi, ça me convient pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre sur des bonnes bases?
Déjà, il faut être courageux pour dire ça, parce qu'il y en a plein qui ne disent rien, dont moi, ça m'est déjà arrivé. De ne rien dire, de continuer l'interview, et puis finalement, de jamais la mettre en ligne et de trouver une excuse bidon, tu vois.
Bah ouais.
C'est courageux de dire ok, on arrête, on fait un break.
Bah, en fait, mais ça c'est pareil, je suis passé par là avant. Moi, ça fait juste 15 ans que je fais ça. Maintenant, je me dis juste oui. Ok, en fait, avant tout, c'est moi qui déconne. C'est moi qui suis pas bon. Si la personne s'autocite ou si la personne. Tu sais, parfois, tu vois aussi des artistes qui sont en presse, enfin, tu vois, qui font plein de presse et qui rebondissent systématiquement sur ta question pour revenir à un truc qu'ils connaissent et qu'ils répètent. Et ça, avec le temps, en fait, moi, j'ai réussi, je le décèle maintenant, tu vois, je vois très bien qu'ils reviennent en mode automatique où on leur pose toujours les mêmes questions. Et en fait, si tu leur poses une question un peu de côté, ils vont réussir à détourner la question pour revenir sur le truc. Et en fait, il ne faut jamais hésiter à dire « Ah, mais non, mais là, tu es juste en train de me réciter ton discours de promo, vas-y, dis-moi vraiment le vrai truc. »
Ouais, t'as pas peur d'être piquant, quoi.
Mais c'est pas piquant, en plus, parce que pour moi, c'est pas piqué, c'est juste donne-moi le vrai truc. Je suis pas en train de dire...
Oui, c'est pas de la méchanceté.
Non, c'est plutôt... En fait, ça m'intéresse pas que tu me donnes exactement la même chose. Je le présente pas comme ça, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas que tu me donnes la même chose qu'à tous les autres. En fait, c'est quoi le vrai truc derrière, quoi. Donc, oui, parfois, ça peut désarçonner la personne en face. Mais pour revenir à ces histoires de junket presse, tu vois, de gens qui sont dans des parcours de presse où ils répètent toujours la même chose, en fait, en vrai, ils sont hyper heureux d'avoir quelqu'un qui leur dit non, mais vas-y, t'es pas obligé de faire de répéter, quoi, tu vois, de remettre ton disque qui commence à être rayé, propose-moi autre chose, c'est cool, quoi.
C'est vrai, tu vois, ça fait écho à une interview que j'avais vue de DJ Snake où il disait ça, en fait. Il disait, j'en ai marre des interviews à la télé parce qu'ils me posent tout le temps les mêmes questions. C'est...
Mais en fait, si t'as un artiste avec qui t'arrives à... En fait, pour moi, l'un des trucs cool, c'est que quand t'as des gens en face de toi qui ont fait des centaines d'interviews et qui disent, putain, ça c'est une question qu'on m'a jamais posée. Là, tu dis, eh bien, écoute, c'est une interview réussie. Voilà, déjà de base.
Mmh.
Et c'est hyper important. Ou alors, tu vois, de leur faire dire des trucs qu'ils n'ont jamais dit ou dont ils se rendent compte, où ils disent, putain, mais en fait, c'est vrai que quand j'y pense, je suis en train de le dire là et je me rends compte que, ah ouais, putain, j'avais jamais réagi que je fonctionnais comme ça, quoi. T'es là, bon, bah, moi, j'ai gagné, quoi, tu vois, moi, je suis là. J'ai fait ma journée, c'est bon.
Et tu vois, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand je te demandais les qualités d'un bon intervieweur, c'est l'écoute. Parce que pour être en mesure de poser ces questions-là qui sortent un peu des sentiers battus, il faut prendre le temps d'écouter la personne qui est en face de toi et savoir, pas enfoncer une porte ouverte, mais voilà, saisir une opportunité qui se présente, quoi.
Oui, exactement. Et de pas avoir peur de poser la question qui te fait peur.
Ça, c'est un bon conseil.
Je crois.
Ouais. Alors, cette formation, elle est disponible sur ton site pour les podcasteurs qui nous écoutent et qui ont envie d'aller...
Sur Podia.
Ok, très bon choix.
Je sais pas si tu connais, mais...
Ouais. Ok, donc c'est dispo sur ton site. Après, on peut aussi te suivre sur Insta et sur LinkedIn pour avoir tes actualités.
Tout à fait.
Mais en tout cas, pour les podcasteurs qui ont envie d'exploiter ce côté interview-là, ce qui est très cool, c'est qu'il y a tout ton process systématisé.
Ah oui.
Dans un... Tu sais combien de temps ça dure, à peu près ?
2 heures et quelques.
Ok, donc en une après-midi, c'est fait, quoi.
Ah ouais, largement.
Ouais, ok. Bon, mais je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Et pour finir, je voulais juste te demander un petit conseil que tu as pour les podcasteurs qui produisent leur émission, mais qui n'obtiennent pas forcément de résultats. Quel conseil tu leur donnerais, toi, qui as autant de podcasts et qui sont autant écoutés ? Qu'est-ce qui est la clé et fait la diff pour avoir un podcast que les gens écoutent et auquel ils reviennent ?
Quand tu dis résultats, déjà, tu parles de quoi ? C'est ça ? C'est d'audience ?
En fait, je parle de l'engagement que tu as, parce qu'au-delà des statistiques, moi, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que les gens sont fidèles.
Mmh.
Et ils écoutent plusieurs podcasts, et surtout depuis plusieurs années, en fait. Et donc, est-ce que toi, tu as un conseil par rapport à ça, pour créer ça, on va dire, chez les gens ?
Bien, d'avoir sa voix, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est un peu bateau et bidon, mais en fait, tu vois, par exemple, je vois pertinemment, j'ai lancé quelques vidéos YouTube en début d'année dernière. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et en fait, je me suis arrêté, parce que je sens que la voix que j'ai dans mes vidéos YouTube, elle ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire et qu'elle est très différente de ce que je fais dans mon podcast. Et en fait, pour l'instant, je sais pas vraiment, j'ai pas trouvé ma voix sur YouTube et ma voix en vidéo. Là où je sens que dans le podcast, c'est ultra aligné et que je sais exactement où je suis, pourquoi je suis là, etc. Et sur YouTube, non, pas trop, tu vois. Et je le sens pertinemment. Et en fait, les chiffres, ça fonctionne pas trop, tu vois. Donc, et je comprends aussi que de ce fait-là, il y a peut-être aussi à un moment donné où il faut que je me réaligne moi en vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle voix j'ai envie d'avoir, quel positionnement j'ai envie d'adopter en vidéo par rapport à mes podcasts, est-ce que j'ai envie de faire un prolongement, enfin je sais pas, pour l'instant j'ai pas trouvé, mais typiquement je crois que le truc qui fait que mes podcasts sont suivis autant, alors déjà ça fait 15 ans que je fais ça et j'ai fait 15 ans de Mademoiselle auparavant, donc j'avais déjà une petite commu qui me suivait et qui m'a suivi après que j'ai quitté Mad. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Hein. Oui. C'est un énorme cadeau que j'ai fait d'ailleurs à tous les gens qui sont passés par chez Mademoiselle, parce que généralement, ils récupéraient un peu de la fame que le média, qui avait une énorme audience. Je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait vraiment une énorme audience. Il y avait plusieurs millions de visites par mois. Donc ouais, si je récupère ça aussi. Je suis parti avec ça de 15 ans de travail quotidien sur Mademoiselle que j'ai pu récupérer dans mes podcasts. Je ne suis pas parti de zéro. Mais c'est surtout, pour moi, c'est avant tout la voix, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de venir offrir au monde avec ton podcast. Et après, en fait, c'est long. Voilà, si tu crois que ça va arriver du jour au lendemain, désolé, ça marche pas comme ça. Il faut taffer, il faut travailler. Et j'ai vu qu'il y avait plein de podcasts qui s'étaient lancés là, depuis 3-4 ans. C'est super. Et en fait, je vois aussi qu'il y a de moins en moins de podcasts qui se lancent là nouveau, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont dit « Ok, c'est bon, c'est un peu l'Eldorado, je vais me lancer là-dessus. Comme tu vois, c'est facile à produire, t'as juste besoin d'avoir deux micros, un enregistreur, c'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple à produire que de la vidéo, par exemple. »
Ouais, c'est sûr.
Mais en fait, non, c'est... Et surtout aujourd'hui, je crois, si tu te lances en 2023, c'est faut vraiment être prêt à grinder et à galérer un peu. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'outil de découvrabilité aujourd'hui sur les podcasts comme il y a sur YouTube, où tu peux te faire connaître par l'algorithme, etc. Pour l'instant, tous les algos... Spotify commence à faire du travail de mieux en mieux, oui. Je trouve, en termes de découvrabilité. Puis ils mettent plutôt en avant leur Spotify Original, c'est leur podcast à eux. On ne peut pas les blâmer. Mais ouais, il va falloir prendre le temps, en fait, et surtout ne pas te décourager. Voilà, un des trucs que je suggère à tous les gens, c'est, avant de se lancer, c'est... En fait, produit en entier 5 épisodes. 5 épisodes que tu peux diffuser après, avant de commencer à diffuser ton podcast. Mmh. Parce que tu vas te rendre compte du temps que ça prend, de quel point c'est long, du process qu'il peut y avoir. Tu vas te rendre compte aussi de l'épisode 1 à l'épisode 5 que tu as déjà progressé de ouf. Et peut-être te dire, ok, j'ai encore une marge de manœuvre. Mais en fait, avant de te lancer, juste produit 5 épisodes.
Ce sont de très bons conseils. Merci beaucoup.
Merci, avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.